la boutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Africa Radio est en mode retrouvailles ce dimanche matin. Nous partageons avec vous ces retrouvailles qui ont eu lieu dans la maison du doyen Manu Dibango en région parisienne il y a quelques jours. Des parents, des amis, de nombreux artistes et des témoignages. Après ceux de Sally John, de l'inspecteur Makossa, de Heidi, voici celui de celle qui a évolué avec lui sur scène et dans les chœurs, Valérie Bellinga. Fela, Open and Close, c'est le choix d'Heidi. C'est pour lui une belle illustration de ce qu'était le doyen Manu Dibango et de ce qui demeure. Bedouin Manu Dibango, éclectique dans le style, éclectique dans sa manière de concevoir, pratiquer sa musique, éclectique des fois même dans le choix qu'il fait des arrangements, des fois même avant de monter sur scène. Celle qui peut en témoigner, eh bien, c'est Valérie Bellinga, qui est avec nous. Bonjour Valérie.
Bonjour Robert.
Je parlais de l'éclectisme de Papa Manu. J'ai un souvenir, moi, très précis d'un concert où, très peu de temps avant d'arriver sur scène, il y a une discussion et il y a une sorte de réarrangement de certains titres. Est-ce que c'est une chose à laquelle il était habitué ?
Oui, c'est une chose qui arrivait quand même fréquemment. Je pense que lorsqu'il sentait que l'orchestre était prêt à passer à un autre niveau, il introduisait des nouveaux arrangements, des nouvelles parties. Et c'était moi j'aimais beaucoup ça, en fait. J'aimais beaucoup ça parce que ça nous remettait en selle. Et puis il laissait aussi il nous laissait aussi à nous choristes la possibilité de suggérer des choses, d'apporter des choses. Donc si tu te souviens bien, le début de Soul Makossa, on avait rajouté une partie de Soul Peanut de Dizzy Gillespie. Et ça avait été fait comme ça en balance, et c'est venu et on a gardé. C'était vraiment ça. C'était sur l'instant, ils pouvaient rajouter quelque chose qui naissait de la fusion collective.
Il y a aussi la curiosité, qui est une curiosité qui habite finalement tous les membres de son orchestre, tous les membres même de son entourage sur le plan culturel. Le fait d'aller fouiller, moi j'ai l'habitude de dire qu'il m'a poussé à aller faire mes devoirs quand on évoquait ou quand on allait évoquer un artiste. Est-ce que pour toi ça a été pareil, dans le sens de, tiens, on va aller se balader du côté de l'Amérique latine ou du côté jazz de l'affaire? Est-ce que ça, pour vous, c'était aussi une feuille de route pour se dire, bon, il faut qu'on aille aussi retravailler? D'ailleurs, tu as toujours un cahier avec toi et un stylo.
Toujours. Oui, mais justement, même au travers de nos conversations, par exemple, il nous dit, oui, mais la salsa, ça vient du son cubain. Donc, du coup, ça nous poussait à aller écouter. Moi, ça m'a poussé à écouter les Benny Moré, les grands groupes,
la Sonora.
Sonora Matancera, tu vois, tous ces groupes-là. C'est vraiment... Et après, on parlait aussi. Toi, on discutait de musique classique aussi. Mais pour là où il était vraiment incollable, tu le sais très bien, c'était le jazz. Je me souviens, on avait amené un livre de Duke Ellington. Il avait écrit « Music is my mistress ». Et dans ce livre, il parlait de sa vie, mais aussi des musiciens dont il avait, qu'il avait recruté. On dit Johnny Hodges, tu dis Manu, il connaissait la biographie de chaque musicien, sa particularité. Il aimait beaucoup Duke Ellington. Et donc il nous a vraiment infusé ce goût et de la musique, mais aussi des musiciens.
C'est incroyable ce titre, parce que Music is my mistress, c'est aussi un titre qui se prête autant à Ellington qu'au doyen Manu, parce que c'est cette expression, moi, que j'entends toujours, la musique sera toujours devant, vous serez toujours derrière la musique, sorte de quête jamais complète, jamais terminée d'ailleurs. Dans ce qui a été du dernier projet, notamment avec le symphonique, avec le philharmonique, est-ce que tu as eu l'impression, comme moi, que finalement, il y avait une sorte de satisfaction, parce qu'il avait l'air presque d'un enfant quand il était dans ses arrangements?
Ah mais bien sûr, parce que là, il rentrait dans la dimension de tous les gens qu'il avait toujours écoutés, tu vois. les grands musiciens, c'est les grands orchestres des Oliver Nelson, les Duke Ellington, justement, pour ne pas les citer. Il y avait toujours un moment où un grand musicien passant au niveau symphonique. Et lui, ça a été ça, il l'a fait et ça a été sa sortie d'ailleurs.
On parle d'imaginaire aussi lorsqu'on évoque Pamanu. L'imaginaire, c'est d'abord aussi le sien. Quand on est coopté par Manu Dibango pour être avec lui, pour officier dans ses chœurs, pour l'accompagner en tournée, j'imagine qu'il y a forcément quelque chose de d'étonnant, presque de déstabilisant. Au moment où il m'a demandé d'être le copilote de cette maraboutique, j'ai envie de dire, les choses ont basculé. Est-ce que pour toi, ça a été la même chose? Et est-ce que tu te souviens du moment, justement, de ce moment-là?
Eh bien, le moment, en fait, pour moi, ça a été à mes débuts. Je viens d'arriver à Paris. Quelqu'un lui dit qu'il y a une choriste, il y a une fille qui chante et tout. Il a dit, je veux entendre le son. D'abord, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai envoyé une cassette et il m'a reçu après. Suite à quoi, j'ai été engagée au concert qu'il donnait au Casino de Paris. Ça, c'était ma première fois avec Manu. Et là, j'étais en apesanteur parce que je me revoyais petite fille écoutant Soma Loba à la radio. Tu vois, et là tu te retrouves en train de participer à Soma Loba sur scène. Et ben moi, je peux te dire que j'ai vécu un rêve éveillé pendant longtemps.
Et est-ce que on écoute le musicien, on regarde l'artiste, parce qu'il y a des gestes, il y a un regard qu'il fait à chacun de vous avec le saxophone en main ou sans le saxophone. Est-ce que ça aussi, cette école, finalement, parce que finalement c'est une université d'être à côté de lui.
Complètement, c'est une école, c'est une approche de la vie, parce que Manu ne cessait de me répéter qu'il faut être souple avec les gens. Sois souple, Valérie, il me disait. Et il insistait beaucoup sur le fait que la musique, on l'a fait avec les gens. Deux choses, il insistait sur le fait que le concert n'est pas une science exacte, qu'il faut lire le public et savoir ensuite lui donner ce qu'il va pouvoir digérer. Tu vois, ça a été vraiment pour moi une école, mais formidable. Une école de compagnonnage, de camaraderie, de...
C'est étonnant que tu dises compagnonnage, parce que lorsqu'on parle des compagnons, il y a le côté artisan de l'affaire.
Mais bien sûr, bien sûr. Parfois, on répétait souvent des parties jusqu'à ce qu'il ait le son qu'il veuille entendre. Il entendait... Non, on essaye, non. Et quand on s'est impatienté, il disait non, calmez-vous, on cherche. Il y a un moment où il faut chercher et il y a un moment où il faut trouver. Et il y avait le moment de chercher, le moment pour trouver. Et parfois, nous, parce que le visionnaire, c'était lui. Donc parfois, nous, on avait l'impression que oui, ça va, mais ce n'était toujours pas ça. Tu vois? Donc il fallait toujours quand même se hisser pour être à la hauteur de la vision du leader. C'était quelque chose qui était pensé.
Et ensuite, on se l'impose à soi-même.
Bien sûr qu'ensuite, non seulement on se l'impose à soi-même, mais on en est imprégné. D'une manière ou d'une autre, ça vous formate. Voilà.
Alors, je t'ai posé une colle en disant, bah, tiens, cherche trois chansons, trois titres que tu voudrais écouter, qui créeraient un lien comme ça avec Pamanu. Et dans ces trois titres, d'en choisir un. Lequel serait-il?
J'ai choisi Andar qu'on fait, de Gilberte Gil, qui dit marche avec la foi.
Parce que la foi et la spiritualité étaient aussi très présentes.
Étaient très présentes parce que Manu était une figure musicale et africaine et presque tutélaire. Et tu vois, il fallait qu'il apprenne à slalomer entre qui lui il était véritablement et ce que les gens voyaient de lui. C'était quelqu'un qui était un être mouvant. Il était en permanence en mouvement. Et c'est ça, tu marches avec la foi, mais tu sais pas en vérité ce qu'il y a devant. Mais tu as la foi et tu continues de marcher. Et c'est ce qu'il a fait avec son instrument. C'est ma grande leçon. Lui, il avait une foi en musique, c'est le musicien qui travaille. un musicien et un musicien qui s'entraîne et un musicien qui travaille.
Andar con fe, Gilberto Gil.
Gilberto Gil, ouais.
Muito obrigado, Valérie.
De nada, com muito prazer.
FM à Paris, Andar con fe de Gilberto Gil. C'est le Brésil, c'est l'univers d'ailleurs musical que Don Manu aimait beaucoup. Le Don Manu et ce voyage musical, ça veut dire aussi des anecdotes, parler des artistes qui lui sont chers et des artistes avec leur mimique. Quand il me dit Tito, tu sais, le toucher sur un instrument, c'est quelque chose de particulier. Et pour preuve, Étienne se touchait, pour lui, c'est avec ce gant. Et il m'explique comment Étienne Mbappé, avec ce gant, apprivoise l'instrument différemment. Alors c'est un bonheur pour moi qu'Étienne Mbappé soit avec nous aussi. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Tout à l'heure, Valérie Belinga évoquait le côté artisan, dans la manière que le Don Manu, justement, avait de composer, de travailler, d'évoluer avec les artistes. Est-ce que tu retrouves finalement cet aspect de celui qui façonne, qui cisèle ?
Absolument, je pense que quand on est artiste, quand on fait de la création, il y a une phrase qui dit que le plus beau se cache parfois dans les détails, quoi. C'est dans les détails, c'est dans le millimètre. Voilà, c'est-à-dire que ces détails-là sont tellement importants pour ramener à la surface des choses qu'on a pensées, qu'on a imaginées. Et sans ces détails-là, la musique ne serait pas ce qu'elle est. Donc je peux comprendre que Manu, et comme tout autre créateur, sache ciseler, façonner, gommer, recommencer et revenir un morceau, une chanson finalement n'a pas de... Combien de versions de Soul Makossa Manu nous a offert? On l'a entendu en reggae, on l'a entendu en jerk, on l'a entendu en jazz, on l'a entendu en afro, on l'a entendu en soul, on l'a entendu... Et c'est ça un artiste en fait. C'est-à-dire que... Et quand on fait de la musique vivante, c'est important parce que c'est de la musique vivante, donc il n'y a pas de... Quand on peint un tableau, à un moment donné, ça devient une nature morte parce que le tableau demeurera comme ça. Or, quand on grave un disque, le disque demeurera comme ça, mais quand on fait vivre ces morceaux ou ces chansons sur une scène, on peut leur donner des visages complètement différents, on peut les changer, les arranger, les déranger. Et je pense que Manu, c'était ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'était un arrangeur hors pair, mais en même temps, il aimait aussi déranger parce qu'il n'aimait pas être attendu où les gens l'attendaient, justement, quoi. C'est-à-dire qu'il aimait surprendre comme un boxeur. Un boxeur, vous attendez le coup là et vous recevez un uppercut en plein menton. C'est ça un boxeur, et c'est comme ça qu'on gagne les combats. Donc quand on se fixe ça comme devise de vie, on continue d'avancer tous les jours en se disant de toute façon, Somaloba ou Solmakosa ou Big Blow, c'est des choses que je vais refaçonner, et on reste alerte, on reste dans l'instant, on reste dans la chaleur, dans la création en fait, quoi. Et c'est marrant, j'ai une anecdote avec le grand Manu à l'enterrement d'un grand artiste que j'ai eu l'occasion d'accompagner, qui s'appelle Jacques Higelin. Nous nous sommes retrouvés au Père Lachaise et nous étions derrière le cortège, derrière le corbillard, nous nous sommes retrouvés là. Et oh Étienne, comme il adorait m'appeler de sa voix grave et tout ça, et Et nous avons parlé de choses. Et bien celui qu'on a enterré ce jour-là, Higelin, ben c'était ça, c'est l'improvisation. Aller toujours chercher, ne jamais s'endormir sur ce qu'on a fait en disant « Ah, on a fait ». Non, c'est même ce qu'on a fait, le déterrer, le voilà, c'était ça aussi Manu pour moi. Vraiment.
Tu as parlé de musique vivante justement, Étienne, et c'est étonnant parce que la musique, pour lui, elle ne peut être que, voilà, en live, elle ne peut être que évolutive, elle ne peut être aussi que quelque chose que l'on partage. Partager des expériences scéniques ou de studio avec Manu Dibango, j'imagine c'est à chaque fois, ce sont à chaque fois des instants particuliers pendant que vous créez. Ça, aucun moment n'est similaire à un autre.
Mais c'est ça, c'est le vrai bonheur, c'est ça en fait. Le vrai bonheur, c'est que si aucun moment n'est similaire à un autre, ça veut dire que nous vivons une multitude de moments et que nous essayons tous de rendre les plus agréables, le plus agréable possible, et toujours avec cette idée de recherche, cette idée d'aller chercher au fond des choses, d'aller trouver au fond des choses, se renouveler perpétuellement, et qui fait que jamais en fait on ne s'endort sur ses deux oreilles, j'allais dire. Voilà, et Manu, c'était complètement ça. Je me souviens, sur mon deuxième album, j'ai rendu un hommage à un grand artiste camerounais qui s'appelle Eboualotine.
Elimba Dikalo.
Elimba Dikalo, voilà. Et quand j'ai appelé Manu, moi en fait dans ma tête je voulais boucler une boucle, permettez-moi l'euphémisme ou le pléonasme. Ça veut dire que à cette période-là d'Elimba Dikalo, dans les années, fin des années 60, c'est Manu qui a arrangé plus ou moins un peu tous ces artistes, Eboualotine, André Maritala ici, et l'avoir sur ce titre d'Eboualotine, ce titre phare que tout le Cameroun connaît. Et ce jour-là en studio, j'ai vu comment Manu réinventait le Limba Dikalo d'Eboualotine avec un sax. Il m'a dit très très bon choix de morceau. Je le voyais dans un coin avant la prise, répéter. On peut l'apprendre. Et c'était d'une traite. J'ai une vidéo chez moi, je l'ai filmé moi-même. C'est une traite. Voilà, il a dit ça te va. Je lui ai dit mais. Voilà, c'est la magie était là. Et ces instants magiques, c'est dans la création, c'est dans la... Et Manu, c'était ça, évidemment.
La création, pour toi, et s'il devait rester une œuvre de Manu Dibango, il en a signé plusieurs, s'il y avait un titre, un morceau de lui, qui est vraiment celui qui l'incarne et celui que, avec lequel tu le vois, comme on dit, et qui incarne quelque chose.
Alors, en un seul titre, évidemment, ça va être très très difficile. Juste avant que le grand Manu ne passe de l'autre côté, je me suis remémoré une chanson de lui qu'écoutaient mes parents, une chanson qui s'appelle « Otete na Munja ». Otete na Munja, en plein milieu de la mer, où il décrit en fait ce voyage que quelque part nous avons tous fait, nous qui nous sentons un peu déracinés aujourd'hui, qui avons quitté l'Afrique depuis de très très longtemps, qui habitons dans un pays à l'étranger, même si ce pays-là, c'est un peu le nôtre aussi aujourd'hui. Depuis de longues années, quand j'écoute Otete na Munja, j'entends, j'ai l'impression que je suis dans le bateau qui traverse les mers et qui amène le grand Manu vers une inconnue en fait. Ça veut dire qu'il va découvrir un monde nouveau, Otete na Munja, et en même temps il a une... C'est quelle source d'inspiration? Il a une pensée pour tout ce qu'il a laissé, donc pour le connu, ceux qui connaissent sa famille, le pays, ses amis et tout ça. Et ce morceau m'a vraiment... je le porte quand même parce que j'ai composé, mais ce morceau m'a tellement inspiré d'autres chansons. Cameroun Omblema, ça vient de là. Ça vient de Francis Bébé qui raconte d'autres choses. Voilà, c'est ces aînés-là qui passent le témoin et qui nous relatent un pan de leur vie. Et dans lequel nous nous identifions complètement et qui fait que ce morceau est pour moi de l'œuvre immense de Manu Dibango. Celui-là, c'est vraiment, il a une place particulière comme beaucoup d'autres, mais je pense à celui-là en particulier parce qu'il raconte en fait l'histoire que nous avons tous vécue, quoi, qui est lui en tant que précurseur, parce qu'il est, voilà, c'est l'aîné, c'est le c'est lui qui a ouvert les portes, d'autant que quand il parlait de Saul Makossa en disant ce morceau, cette chanson qui a ouvert les portes, ben lui, ça a été l'homme qui a ouvert les portes à tout un continent, qu'on soit Camerounais, Congolais, que sais-je encore, Sénégalais ou autre. Ben c'est Manu et c'est une reconnaissance éternelle que nous lui devons et une amitié et un amour surtout inconditionnel. Quoi. C'est, pour moi, ça va jusqu'à la... Et quand on a eu la chance de le côtoyer, enfin, voilà un monsieur qui m'a fait la surprise de venir dans un tout petit endroit au Baiser Salé en plein Paris où je jouais, mais quelques mois avant son... Et avec son fils, Michel MD, et j'ai dit à MD, mais comment ça se fait que tu l'aies amené là? Il m'a dit, c'est pas moi qui l'ai amené, c'est lui qui m'a appelé en me disant, Étienne, joue ce soir, tu viens me chercher, on y va. Et les concerts au Baiser Salé commencent, dans le meilleur des cas, à 22h. Emmanuel est resté jusqu'à tard dans la nuit pour m'écouter. Et il m'a fait des surprises comme ça. J'avais une relation particulière avec cet aîné-là. Et son départ est si douloureux. Et si, surtout à cette période, c'est... Enfin, j'aurais tellement d'anecdotes à raconter. Mais tellement, mais c'est... Enfin bon, c'était un grand homme. Et il demeurera un grand homme dans le firmament de la musique mondiale.
Et il t'aimait beaucoup, je peux te le dire. Otetena Mwinja, ça c'est un morceau, vous allez écouter. C'était le grain du vinyle de l'époque. Absolument. Et une voix dont il aimait dire, alors elle n'était pas empreinte ni de cigarettes, ni de whisky, ni de tournée, cette fameuse voix qui nous ramène dans les classiques d'antan sur Africa Radio. Merci à toi Étienne.
Merci infiniment, merci, bonjour à tous les auditeurs et merci beaucoup Robert Bazar, merci.
Sonate wa meneloma Jongwa nelongo Mwene kumbuba monatikie Otete na munja Mbo wa mto bebe Ate na mabwa sondene Sonate wa meneloma Jongwa nelongo Otete na munja Mbowa eti ibebe Toma ka umome na tada nipo na mome Mwome mabo, lamboti ibe Sonate wa meneloma Jungwa nelongo Mwene kumbumba monatiki
Namunja, l'image du bateau qui s'éloigne et le pays qui disparaît au loin, un classique du doyen Manu Dibango choisi par Étienne Bappé. Après une petite pause, la suite de ses retrouvailles chez Papa Groove avec il capo des Tutti Capi, Patrick Boma.
Les trésors de Manu Dibango sur Africa Radio.
Sur la radio africaine, ce dimanche, programme exceptionnel, des retrouvailles dans la demeure du doyen Manu Dibango. Et après Étienne Bappé, lion de la basse, un autre lion indomptable, celui-ci, Patrick Boma. Otetena Mwinja, Manu Dibango sur la radio africaine. Et lorsque l'on parle du pays, lorsque l'on parle de son boa, on parle évidemment de figures qu'il aimait beaucoup tant sur le plan personnel que sur le plan de leurs exploits sur le terrain. C'est le cas d'un certain Henri Patrick Bomandem, le bien nommé. Bonjour Pat, comment vas-tu ?
Salut, salut Robert, ça me fait déjà très plaisir d'être avec toi et d'entourer quelque part Manu.
On laissera de côté notre querelle entre le Paris Saint-Germain et Marseille qui est à la recherche d'un actionnaire. Non, ce que j'aimerais te dire justement, c'est que tout le monde ici, on en parlait avec Étienne Bappé à l'instant, avait un échange particulier avec le doyen Manu Dibango. Toi, quand vous vous rencontrez, vous parlez de quoi? Parce que les gens peuvent se dire, bon, ils vont tout de suite parler de ballon rond, mais vos échanges généralement portaient sur quoi?
Je pense que j'étais plutôt moi celui qui questionnait et c'était beaucoup sa musique. C'était beaucoup la musique. Parce que c'est là-bas que je... Oui, j'avais ma plus grande fierté. Alors il y a du beau monde hein, chez les artistes camerounais, mais j'avais ma plus belle fierté parce que je sais depuis tout petit que c'est une valeur internationale à la fois à la limite incommensurable et je ne dirais pas inégalée, j'exagérerais, mais qui semblait faire le consensus partout où il passait. Peut-être parce que ce n'était pas tant la voix et la langue qui ressortaient, mais l'instrument et donc l'imaginaire qui entrait dans les personnes qui écoutaient ses œuvres.
Il était une source d'inspiration pour toi, même dans un domaine différent, c'est-à-dire le fait de se dire, je viens d'un pays où il y a des identités remarquables, comme Manu Dibango, donc moi-même, d'une certaine façon, il faut aussi que je donne le meilleur de moi.
Bien entendu, parce que c'est... même si c'est pas mon domaine, c'est une référence. Et donc, on a envie de bien faire, de parfaire ce qu'on fait parce qu'il y a ces références. J'ai cette anecdote de l'année 1990 où le Cameroun a son exploit en Coupe du Monde. Et je parle de ma fierté d'être Camerounais. Je discute sur ça et puis d'autres veulent discuter sur leur fierté d'être portugais, algérien et tout ce que vous voulez. Et moi, le premier nom qui me vient à l'esprit pour dire que on a le football, mais on a la culture et bien d'autres choses, c'est Manu Dibango. Et tout le monde connaissait. Et mon ami portugais ne savait pas me donner un nom qui allait faire consensus. Mon ami algérien ne savait pas lequel nom me donner. Donc c'est un personnage extraordinaire et aujourd'hui on peut parler de mythe.
Tu as un souvenir particulier avec Manu Dibango, un moment, c'est-à-dire une rencontre qui vraiment pendant toutes ces années, je veux dire, est revenue au moment où on a appris sa disparition.
Mais il y a quelque chose de très bizarre. Là, je dirais pas que ce sont les planètes qui s'alignent. Bien au contraire, je serais à l'opposé de ça. Mais je me retrouvais moi-même hospitalisé pendant que lui était en train de partir. Et je ne savais pas, je n'en étais pas sûr. Et je fouine mon téléphone et réseaux sociaux et je vois cette photo que j'ai avec lui qui était d'une richesse sans nom, parce que je me suis retrouvé à oser demander de faire une photo avec lui alors que j'ai eu plus d'une occasion. Et finalement ça reste un trésor parce que je l'ai mis à une forme de panthéon que j'ai à l'intérieur de moi où il n'y a pas beaucoup de personnes et il en fait bien entendu partie.
Et s'il y avait un mot pour le décrire?
Waouh! Sagesse. Et j'explique cela pourquoi, c'est que j'ai vu une personne que j'ai toujours vu sourire. J'ai connu une personne qui, de par ses œuvres, a toujours donné le sourire. Et j'ai entendu et vu des témoignages de cette personne qui avait toujours, plus qu'un rictus, des éclats de rire parce qu'il expliquait avec simplicité ce que la vie lui avait donné. Et ça, je trouve ça fort. Moi, je ne sais pas expliquer quand on essaye de me dire qu'est-ce qui faisait ma force. Je ne sais pas l'expliquer avec cette force qu'il avait, qui était enrobée de cette sagesse et surtout de ce sourire.
Merci, Pat.
Merci, Robert. Thank you.
dédicace de la Maraboutique, une Maraboutique exceptionnelle chez lui en région parisienne. C'est forcément avoir des acteurs de cette Maraboutique, des témoins oculaires de l'affaire, comme il aime le dire, et des consultants magnifiques pour moi, puisque lorsque j'évoque le terme de consultant, c'est surtout des gens qui me donnent des antisèches pour que je puisse pouvoir répondre au Doyen Manou. Et c'est le cas d'ailleurs de Yabé Kouedi qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour Robert. Comment tu vas ?
Ben ma foi, ça va, parce que ta voix résonne dans la Maraboutique, tu es bien là. Papa Manou, quelle histoire ! Yabé Kouedi, Papa Manou Dibango, quelle histoire, quelle trajectoire et quel goût de la musique. Parce que finalement, il faut le redire aux auditeurs, Manou Dibango, c'est un mélomane, mais un mélomane complètement fou. La musique, c'est tout le temps, c'est dans tous les styles et partout.
Oui, Manu, faudrait peut-être que je parle avant toute chose de ma relation avec Manu. Manu, Tito, je ne saurais quoi te dire. Si c'était le tonton, le papa, le grand-père, l'ami, c'est-à-dire Manu, je me retrouvais dans tout, dans Manu. Je ne savais même pas où me positionner parce que, à certains moments, je me demandais si c'est pas lui qui m'aimait plus que moi je ne l'aimais. Manu, c'est quelqu'un qui, par semaine, m'appelait entre 3 et 4 fois, qui m'invitait à venir manger à midi. Je le retrouvais à Champigny et des fois il passait à la maison me rendre visite. Donc avant de parler de la musique et tout,
c'est ce lien.
Ce lien, je ne pouvais pas attaquer ce côté-là sans en parler. Donc c'est quelqu'un aussi qui, dans la vie, m'a beaucoup apporté. Tu me connais bien, tu sais que j'ai produit pendant des années. Donc je suis passé par les deux écoles. La première école, c'est celle du ghetto. C'est-à-dire que les gens de la musique, la classe moyenne. Et je suis aussi passé par la cour des grands. Donc à travers tout le travail que j'ai fait avec Manu, j'ai beaucoup appris dans la production, dans l'organisation des spectacles et le fonctionnement qui existe dans la cour des grands. Donc ces deux écoles-là m'ont permis de trouver un équilibre dans ce que je fais. Grâce à Manu, j'ai découvert le monde. J'ai fait beaucoup de pays avec lui. Je suis allé aux États-Unis, dans plein de pays, dans l'Afrique, toute l'Europe et tout. Et à chaque pays, sa culture. Donc franchement, c'était trop enrichissant comme expérience. Je le regrette aujourd'hui parce que je pense que je n'ai pas su ou je n'ai pas pu profiter de tout ce qu'il aurait pu m'apporter. Et j'avais d'énormes projets. Je regrette énormément. Je lui en avais parlé. Mais il est parti brusquement et je suis vraiment essoufflé.
Mais c'est peut-être pour ça que, et c'est une manière de dire aussi que c'est à toi de les porter, de les poursuivre différemment. On a les musiciens du Soul Makossa Gang, j'ai parlé aussi avec d'autres personnes. Il y a toujours cette idée de une sorte de transmission de quelque chose qu'il faut poursuivre. Peut-être que c'est aussi cela.
Il y a ça. Tu sais, Manu, c'était en même temps, il était musicien, mais c'était aussi, il portait en lui l'histoire de l'Afrique. Parce que Manu, dans mes discussions avec lui, Manu m'a parlé de son passage en Belgique avant les indépendances, m'a parlé des Lumumba, de leur époque avec le Rochoro. C'est-à-dire que en Manu, tu as toute l'histoire de l'Afrique quand tu discutes avec lui. Et il connaissait personnellement tous ces acteurs de l'époque. Donc le regret aussi, mais je pense quand même que toi qui as beaucoup travaillé avec lui à la radio, tu as encore pas mal de choses dans les archives. Parce qu'à travers toutes les musiques que vous passiez à la radio, il y avait toujours une petite histoire qui suivait.
Qui se racontait.
Qui se racontait et c'était formidable. Moi je pense que si tu fais un retour en arrière de tout ce que vous avez fait, tu as l'histoire de toute l'Afrique et la politique et la musicale.
C'est marrant parce que tu évoques la politique et la musique. Ma première question, j'y reviendrai après. C'est aussi un observateur de son temps. Parce que tu le sais comme moi, les journaux, la revue de presse du matin, le bulletin d'infos de l'après-midi, il est incollable sur toutes les actualités.
Et il les lisait et il les analysait avec beaucoup d'acuité.
Bien sûr. Manu, il faisait très souvent un tour d'horizon de la politique ici qu'il maîtrisait, puisqu'il a vécu ici. Il était au courant de tout. Il nous parlait de tout ce qu'il y avait comme transition dans la politique, le fonctionnement de certains hommes politiques. Et côté Afrique, je sais que quand il m'appelait le matin, il me demandait c'est comment le pays, quelles nouvelles tu as. Donc il voulait être au courant de tout ce qui se passait. Et entre ce qui se passait et ce qui s'est passé en Manu, on apprenait beaucoup de choses. Donc franchement, c'est quelqu'un qui me manquera beaucoup. Et je ne saurais quoi te dire. Toi-même, tu as vu comment il était avec moi, comment il m'attirait toujours vers lui. Et j'étais toujours à côté de lui. Je pouvais venir le retrouver à la radio. C'était pour juste qu'on s'assoit 2-3 minutes, on prend un café, on cause, il m'amène à la place de la Nation, je sors de la voiture, il me dit à demain. On s'est vu, on est content, on a rigolé. Quelquefois, il m'appelle, il me dit, tu es où? Viens, retrouve-moi au canon de la Nation, à la Nation, à ce café, qu'il aimait beaucoup. J'arrivais. Pendant que j'étais en train de prendre mon café, son café était là, il se refroidissait. Lui joue au flipper.
Ah oui. Un amateur de flipper, d'ailleurs, Miliane et ses petits-enfants peuvent le dire.
Voilà. Côté musique, j'ai aussi beaucoup appris parce que dans tous les déplacements qu'on faisait, quand je vivais, je voyais comment il organisait les choses, j'ai beaucoup appris. Beaucoup.
Tu parlais de musique justement et d'apprentissage. C'est les voyages, on te voit dans des images quand vous marchez aux États-Unis ou ailleurs. Il y a le Cameroun aussi. On est sur Africa Radio, il faut le dire. Le lien du Don Manu Dibango, de Papa Manu avec le Cameroun, ce Mboa. Les gens en parlent, mais tu es un de ceux qui est les mieux placés pour parler de cette force et de cet amour incroyable, oui, avec la terre qu'il a vu naître.
Manu, il adorait son pays. Bon, il y a eu quelques blessures, c'est vrai, mais je pense qu'il a réussi à les surmonter. Il y avait un petit reste là, mais il aimait franchement le pays. Manu n'a jamais pu se séparer de son passeport camerounais.
Le fameux passeport.
Le fameux passeport vert. Et à ma grande surprise, je sais qu'on était à une réception où Nicolas Sarkozy a cru que Manu était français. Manu lui a dit non, il est camerounais. Sarkozy n'en revenait pas. Donc, je peux te dire que Manu aimait ce pays. Il aimait et il prenait des nouvelles tous les jours. Et dans toutes ses relations avec le Cameroun, j'intervenais toujours. J'étais auprès des autorités pour régler certains rendez-vous, certains programmes. Même quand c'était difficile, on arrivait toujours à trouver des solutions.
Et quand il pense à son Cameroun, il pense également à la chorale, il pense à Pandoumbe Yango, on pense à Arbogast Mbelantone, évidemment, Tiamao. Et il chantait des cantiques. Quand on est en voiture avec lui ou quand il marche, il chante souvent des cantiques. Dimalanga de Bibel. Alors moi qui ne savais pas au début, Edou, oui. Benaloba. Mm-hmm. Est-ce que c'était pareil avec toi?
Avec moi, on parlait chorale. Pourquoi? Parce que j'avais des projets avec lui. Alors j'avais un projet, je devais organiser un concert de chorale camerounaise ici à Paris où j'avais déjà pris des rendez-vous à l'église de la Madeleine pour pouvoir organiser un grand concert là-bas. J'allais faire venir toutes nos chorales camerounaises que je connais qui sont au point. Il y en a beaucoup, mais toutes aussi ne sont pas très au point niveau chorale. Parce qu'il faut quand même que quand on va dans un lieu comme celui-là, que ce soit vraiment des chorales qui chantent vraiment juste. Donc il y en avait qui étaient déjà élus avec son avis. Et c'est lui qui devait parrainer. Et il devait jouer. Avec dans mon plan, il y avait Arbogast qui devait aussi intervenir. Donc je suis mal sur ce point-là. Mais comme nous avons l'intention de lui rendre un grand hommage dans une grande église. Ce que je comptais faire là-bas, je vais essayer de l'associer à ce projet d'hommage à Manu Dibango.
Eh bien, tu sais quoi, on va écouter ce morceau Edoube Naloba avec une intro, une introduction où on sent bien l'orgue et François Richard qui réalise cette émission et qui nous le glisse déjà en tapis sonore, va pouvoir nous en faire profiter jusqu'au bout. Et Abbé Kouedi qui de toute façon reviendra dans la Maraboutique pour découvrir d'autres sons.
Je serai là, je ne pourrai pas manquer. Il y a Arbogas qui est là, tu devras le voir parce que...
Ça va être fait juste après.
Voilà,
d'ailleurs.
Tout ce qui est religieux, il a fait avec Manu, et Manu, il adorait tout ce qui est chorale. Je suis allé à plusieurs reprises avec lui, aux côtés de la chorale des hommes qui est ici pour faire plein de choses, et il a toujours été à côté de ça. Je pense que ça vient de ses parents aussi. Hein.
Et il le faut, bien évidemment. On écoute ce morceau, et juste après, Monsieur Tchamao Arbogas Belantone, grand footballeur également aussi de son
oui.
État. Toba, un joli cantique sur Africa Radio ce dimanche où nous vous avons proposé un programme exceptionnel, les retrouvailles chez Papa Groove dans la demeure même du Don Amanouti Bango. Dimanche prochain, nous écouterons le propos d'Arbogast Mbelan Tone, voix puissante, incontournable de la scène gospel africaine, un maître de la chorale qui est aussi le frère et acolyte du Don Amanou, qu'il appelait affectueusement Tchamao. En attendant, la suite des programmes sur la radio africaine. Merci à François Richard pour la réalisation de cette émission. Un bel été à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine et avec le Don Amanou depuis les étoiles.